Les informations, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Une première nuit en prison s'est achevée pour Tariq Ramadan, mis en examen hier soir pour viol. Le théologien saura en début de semaine prochaine s'il reste en détention pendant la durée de l'instruction qui mobilise pas moins de 3 juges. D'autres femmes qui l'accusent d'avoir abusé de son emprise intellectuelle pour abuser d'elle et obtenir des faveurs sexuelles pourraient déposer plainte. Les avocats des deux premières plaignantes saluent, avec cette mise en examen et ce placement en détention provisoire de Tariq Ramadan, la levée, disent-ils, d'une chape de plomb autour de l'intellectuel. La théorie du ruissellement chère à Emmanuel Macron doit aussi s'appliquer aux territoires français en difficulté. C'est l'appel lancé par 80 élus de gauche, des proches principalement d'Arnaud Montebourg, qui ont donc lancé ce mouvement des territoires en colère. Ils organisent aujourd'hui au Sénat leurs premières assises et dans leur viseur une politique macronienne trop favorable selon eux, aux grandes métropoles au détriment de la France périphérique. Un discours sur la France rurale notamment qui n'est donc pas réservé à la droite, Claire Chaudière.
Ville moyenne sinistrée, commune rurale, quelques villes de banlieue aussi, ce sont les laissés pour compte de la mondialisation qui s'expriment et se rassemblent aujourd'hui, explique le socialiste François Calfon, initiateur du mouvement des territoires en colère.
Une France périphérique qui perd sa substance déjà au niveau de l'emploi, perd de substance industrielle avec une crise rurale. Vous ajoutez à ça un pouvoir qui affiche comme ça une espèce de fierté de la start-up nation pro-business et qui pratique finalement les coupes claires dans les budgets. Mais vous avez un cocktail quand même relativement explosif. Ces élus disent, on est en train de crever.
Parmi eux, Gilles Noël, maire de Varzy, 1500 habitants dans la Nièvre, ancien soutien d'Arnaud Montebourg, comme beaucoup de membres du mouvement.
Le territoire perd de la matière grise qui était dans les services publics. C'est un peu la lutte contre une obsolescence programmée de nos territoires ruraux.
Et une obsolescence programmée qui va de pair avec une montée dangereuse des populismes, poursuit Wilfried Schwartz, maire de La Riche en périphérie de Tours, avec un important quartier politique de la ville.
On voit bien que le sentiment d'abandon est et le vote des extrêmes est très étroitement lié.
Au-delà de la colère, le mouvement promet de plancher sur 50 propositions concrètes dans un délai de moins de 6 mois pour que la France qui gagne contribue véritablement à relever celle qui s'enlise.
Claire Chaudière, bien à droite cette fois, le parti Debout la France réunit ses cadres en Conseil national. Ça va se passer aujourd'hui à Lyon avec une question: comment exister dans l'après-présidentiel où Nicolas Dupont-Aignan, on s'en souvient, avait récolté 4,8% des voix au premier tour avant de s'allier avec Marine Le Pen au second. Debout la France doit-il se réjouir ou s'inquiéter des derniers réajustements politiques chez les Républicains et au Front National? Analyse du politologue associé à l'IRIS, le spécialiste des extrêmes droites Jean-Yves Camus.
Nicolas Dupont-Aignan a un capital qui n'est pas négligeable. Le problème, c'est qu'il a un positionnement qui est compliqué. Entre d'un côté les Républicains qui se droitisent sous la houlette de Laurent Wauquiez, et de l'autre côté un Front National où on sent bien qu'il existe des tensions, des remous, une certaine baisse de mobilisation après l'échec de la présidentielle, mais qui n'est pas pour autant mort, même si les résultats des partiels sont décevants pour lui. Et puis il y a d'un autre côté l'existence de Florian Philippot, qui est aussi un concurrent sur le créneau du souverainisme et qui semble ne pas véritablement décollé avec des scores aux alentours de 2%. Alors évidemment, la possibilité, c'est qu'à l'avenir, Nicolas Dupont-Aignan réussisse à agréger tout cela. Mais ça fait déjà un an et demi, deux ans, que beaucoup de choses se passent dans ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire dans tout cet interstice assez nébuleux qui existe entre les Républicains et le Front National. Jusqu'aux européennes de 2019, je pense que les difficultés sont très grandes à faire bouger les lignes. Après, si par exemple le Front National venait à s'effondrer par rapport à son score des européennes précédentes, sans doute les choses s'accéléreraient-elles.
Très politique également, cette grande manifestation qui va avoir lieu dans l'après-midi en Corse, à l'appel des dirigeants autonomistes de l'île de Beauté. Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni espèrent entre 20 et 40 000 personnes dans les rues d'Ajaccio pour peser ensuite dans les négociations avec Paris, en particulier sur le statut de la langue et des prisonniers corses. Emmanuel Macron est attendu en Corse mardi pour les commémorations des 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. En Allemagne, la date butoir pour boucler les négociations en vue d'une grande coalition droite-gauche, c'est demain soir, et Angela Merkel reconnaissait hier qu'il reste beaucoup de travail avant d'arriver à un accord avec les sociaux-démocrates du SPD. La question de quelle réforme du droit du travail en Allemagne en particulier continue de faire débat entre les alliés potentiels dans un pays, il faut le rappeler, qui vient de traverser 3 jours de grève dans l'industrie lancée par le syndicat IG Metall pour obtenir justement une hausse des salaires et une réduction du temps de travail. L'attaque est frontale aux États-Unis. Donald Trump s'en prend au FBI et à sa propre administration de la justice. Ce sont les suites de l'enquête russe sur les liens entre la campagne Trump en 2016 et Moscou. Le président américain a provoqué hier la publication d'un mémo rédigé par un membre républicain du Congrès qui accuse donc le FBI de mener cette enquête avec des arrière-pensées politiques. Dans le camp démocrate, on rappelle que le mémo en question repose sur des éléments très faibles et contestables, même critique de la part de James Comey, l'ex-chef du FBI, qui a été limogé à l'automne dernier par Donald Trump. Et puis au Venezuela, désignation par acclamation générale hier soir du président Nicolas Maduro, investi sans surprise par le parti chaviste pour être candidat à sa propre réélection. Malgré la crise politique et économique au Venezuela, malgré la grande impopularité de Maduro, c'est donc lui qui va mener campagne pour un scrutin qui devait se tenir au départ à la fin de l'année, mais que la Cour constitutionnelle vénézuélienne a décidé de convoquer avant le 30 avril. Les précisions depuis Caracas du correspondant de RFI, Julien Gonzalez.
La semaine dernière, Nicolas Maduro s'était dit prêt à être candidat à la présidentielle. C'est désormais officiel avec son investiture par le Parti Socialiste Uni du Venezuela, le PSUV, une investiture prononcée par Diosdado Cabello, vice-président du parti au pouvoir.
Cette assemblée est-elle d'accord pour que Nicolas Maduro soit notre candidat à la prochaine élection présidentielle ? Décision approuvée par acclamation et à l'unanimité. Camarade président, vous êtes officiellement le candidat du Parti Socialiste Uni du Venezuela.
Un choix immédiatement salué par le principal intéressé qui a reçu l'étendard du PSUV. Entouré par les cadres du parti, Nicolas Maduro est apparu tout sourire, convaincu que le chavisme gagnera une nouvelle fois.
J'accepte la candidature à la présidentielle et je le jure devant vous. Je ne me reposerai pas tant que notre patrie ne sera pas devenue une patrie véritablement libre, véritablement heureuse, véritablement indépendante et démocratique. Je vous le jure et je tiendrai ma parole.
Pour l'heure, le Conseil national électoral n'a toujours pas défini la date exacte de la présidentielle.
Julien Gonzalez à Caracas. La météo de ce samedi, enfin fraîche et pluvieuse sur les trois quarts nord-ouest du pays. Le soleil garde ses rayons pour le sud-est où l'on trouvera cet après-midi les températures les plus douce avec 12 degrés sur Nice, 10 pour Biarritz et Marseille, mais pas plus de 3 degrés sur les Alpes, de 4 à 7 sur la moitié nord et 6 degrés attendus à Lyon, 7 pour Bordeaux. Donc, température maximale. Les journaux de cette matinée étaient réalisés avec François-Charles Domergue. Vous retrouverez Mathieu Laurent à 12h30.